Bonjour et merci d'écouter À ta santé, le podcast qui parle de santé simplement, accessible à tous et loin du jargon incompréhensible de l'hôpital. Dans chaque épisode, je recevrai un invité afin qu'il, ou elle, nous parle de son expérience. Ce podcast est l'occasion de donner la parole à ceux que l'on entend trop peu, je pense aux patients, mais aussi aux professionnels de la santé. Aujourd'hui, la première invitée de ce podcast, c'est Anne-Herbert Pertonnier, présidente et fondatrice de l'association Les Bagous à Manon, qui récolte des fonds pour la recherche contre les cancers de l'enfant. Avec elle, nous avons parlé de sa fille, dont elle est désenfantée depuis le 8 juillet 2002, à la suite d'un neuroblastome, et de toutes les actions qu'elle met en place pour la recherche. Avant de vous laisser écouter l'épisode, je souhaite vous dire que j'ai rencontré Anne lorsque j'étais enfant. C'est grâce à son association que j'ai entendu pour la première fois le mot « cancer ». Et surtout, c'est la première fois que j'apprenais, innocemment, qu'un enfant pouvait mourir. C'est pour cette raison que c'était très important de commencer ce podcast avec elle. Je vous laisse écouter l'épisode. Bonne écoute. Salut Anne, comment
Salut Théo, ça va bien?
Du coup, est-ce que toi, tu peux te présenter?
Donc moi, je m'appelle Anne-Herbert Lorenz, de mon nom de jeune fille. Et donc, j'ai bientôt 54 ans. J'habite en région parisienne depuis bientôt 17 ans. En fait, j'ai quitté ma Saintonge natale en 2003 pour venir m'installer en région parisienne. Et c'était juste un an après le décès de Manon. J'ai en fait demandé une mutation professionnelle. À l'époque, je travaillais chez Alcatel CIT. Et je suis arrivée donc sur Vélizy en août 2003. Et j'y suis toujours. Et je travaille toujours à Vélizy. Donc je m'estime très très chanceuse par les temps qui courent. Voilà. Donc Manon a été diagnostiquée en juillet 98 avec un neuroblastome métastatique stade 4. Elle a été diagnostiquée à peine un mois avant ses 4 ans. Il se trouve que j'étais enceinte de Léo d'à peine un mois.
Parce que tu as un autre enfant.
Voilà, Léo qui aura 21 ans au mois de février. Mmh. Donc, j'ai toujours plaisir à dire que Manon est née le 9 août, le jour de la Saint-Amour, et que son petit frère est arrivé le 25 février, le jour de la Saint-Roméo. J'aime bien ce qu'on appelle les synchronicités. Et du coup, voilà, c'est ma petite anecdote que j'aime beaucoup. Donc bien évidemment, quand elle a été diagnostiquée, le ciel nous est tombé sur la tête. On a pris un tsunami en pleine tronche, en fait. Parce qu'à l'époque, il y a 21 ans, bientôt 22 ans, le neuroblastome qui touche 150 enfants en moyenne par an en France, dont 50% de forme abdominale et on va dire 30%, enfin entre 20 et 30% de forme métastatique dans la forme abdominale, le pronostic était tout pourri dès le départ. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être très très bien entouré par les blouses blanches, ces fameuses blouses blanches que j'admire à un point... que je peux même pas... enfin, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je les aime. On a été vraiment très, très bien entourés. Moi, la première question que j'ai posée, ça a été de dire, mais on fait comment? On fait comment, d'autant plus que j'étais enceinte de Léo et que je ne savais absolument pas comment j'allais gérer la maladie gravissime de Manon et ma grossesse, l'arrivée de Léo au milieu de ce tsunami, parce qu'en fait, le tsunami, il y a le tsunami de l'annonce, mais il y a le tsunami de la maladie, des traitements, etc. Et les médecins à Bordeaux, puisqu'on était, Manon a été prise en charge au CHU enfant malade à Bordeaux par l'équipe du professeur Yves Perel. Et Yves Perel, avec Anne-Aude Scarrère, qui était sa chef de clinique à l'époque, m'ont dit, mais... l'arrivée de ce bébé, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Parce que si le pire arrive, vous n'aurez certainement pas à cœur de refaire un enfant, ou du moins pas dans l'immédiat.
Ça peut être violent comme réflexion.
Ça peut être violent, mais alors chez moi, si tu veux, je pense que j'ai cette aptitude à encaisser les chocs et à tirer du positif de tout ce qu'on peut me dire.
D'accord. Tant mieux.
Et moi, j'avais été très cash avec eux, c'est-à-dire que je voulais tout savoir. Mmh. J'étais pas une maman portée par la médecine. Je voulais être une maman active avec la médecine. Et donc, j'avais vraiment besoin de savoir ce qui nous attendait. Manon était tellement métastasée, elle en avait du bout des doigts de pied jusqu'à la boîte crânienne.
Alors, on explique ce que c'est la métastase.
Je te laisse expliquer.
comme j'explique, on essaye d'expliquer les
termes. Oui, de vulgariser le terme.
J'espère que je n'ai pas laissé de mots compliqués passer. Non. Mais en gros, la métastase, c'est une cellule cancéreuse qui se propage dans le corps humain et qui va déclencher un autre cancer à un autre endroit.
Voilà. Donc, chez Manon, en fait, la tumeur primitive, ce qu'on appelle la tumeur primitive, c'est-à-dire le cancer primitif, était logé au niveau abdominal, en arrière de la colonne vertébrale, sur les surrénales. Et la tumeur, à l'époque, avait la taille d'une petite orange, en sachant que les premiers symptômes étaient apparus en fin mai, début juin 98.
Fin mai, début juin, les premiers symptômes.
Ouais.
Quels étaient les premiers symptômes ?
Eh ben, les premiers symptômes, en fait, c'était ceux des métastases osseuses, puisqu'elle était métastasée au niveau des os. Et il y avait des matins où elle se levait, je la prenais dans mes bras, câlin, tout allait bien. Et le lendemain matin, je ne pouvais pas la prendre dans mes bras tellement elle souffrait. En fait, elle avait toutes les ceintures de prise, c'est-à-dire les épaules, le bassin, les genoux, les pieds. Comme un jour sur deux ou un jour sur trois, elle se tordait de douleur. Au bout de 4-5 jours, je suis allée voir le médecin. Et notre médecin traitant à l'époque était parti en vacances. Donc, c'est un remplacement qui nous dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est une gastro. » J'adore. J'adore quand les médecins te disent « C'est une gastro. » Alors, à leur décharge, il faut être clair, c'est que les médecins généralistes, s'ils ont un cas de neuroblastome métastatique dans leur carrière, je ne vais pas dire qu'ils ont de la chance, mais au moins, ils ont eu une approche.
C'est un peu le problème des médecins généralistes qui font avec ce qu'ils peuvent.
Exactement.
Ils ont pas tous les éléments.
Voilà. Donc, on peut pas non plus leur en vouloir. Là, il se trouve que je suis tombée sur un remplaçant. Donc, ça a duré 10-15 jours. Quand mon médecin traitant est rentré, on y est retourné. Il suivait Manon depuis ses 18 mois. Manon, elle allait voir le docteur Noël. C'était les quatre fers en l'air. Elle rigolait avec lui. Et ce jour-là, il n'a pas pu la toucher. Et il m'a dit, vous partez tout de suite au labo. On fait une prise de sang. Il devait être 18h quand il m'a dit ça. On est parti direct au labo. À 20h30, il m'a rappelé en me disant « La CRP est hyper élevée. Il y a un syndrome inflammatoire. Je vous ai pris rendez-vous. Demain matin, 9h30, rendez-vous chez le pédiatre à la clinique à Agen. » Et le lendemain matin, Manon pétait le feu. Donc, on est arrivé dans la salle d'attente du pédiatre. Elle faisait du toboggan, des galipettes. Elle avait mal nulle part. On rentre dans le cabinet du pédiatre, il commence à l'ausculter et mon médecin traitant l'appelle puisqu'il savait qu'on était en rendez-vous. Et donc, il parle entre confrères et le pédiatre lui dit « Écoute, non, il n'y a rien à la palpation, il y a... l'enfant pète le feu, je l'ai récupéré dans la salle d'attente en train de faire du toboggan, franchement, je ne comprends pas. » Et mon médecin traitant insiste. Il dit, écoute, moi, le pédiatre lui dit, je reste sur le diagnostic de la gastro.
En fait, c'est le pédiatre qui ne s'inquiète pas, et c'est le médecin généraliste
qui s'inquiète.
C'est... Ouais. Ok. Les rôles un peu sont inversés.
Là, les rôles sont inversés. On avait un médecin généraliste exceptionnel aussi. Et Manon... Alors ça, c'était fin juin. Et maman descend récupérer Manon pour la première quinzaine de juillet en vacances chez papy et mamie, donc à Sainte. Elle vient la chercher le jeudi et puis le vendredi rebelote des douleurs intenables. Et donc le samedi matin, elle file aux urgences à l'hôpital de Saintes. Alors, je me souviens très bien de la date, puisque juillet 98, pour ceux qui s'en souviennent, ce week-end-là, c'était la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Donc, maman m'appelle, je fais la route le samedi, j'arrive à l'hôpital. Manon avait été mise sous antalgique. Ils avaient fait une écho. Et là, il s'était rendu compte qu'il y avait une masse au niveau abdominal. Donc, week-end de finale de Coupe du Monde. Week-end du 14 juillet également.
Ouais, donc, dans la joie générale.
Voilà.
Toi, tu vis ça. Qui est...
Oui. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ? Et en fait, alors, la finale, c'était le 12, si je me souviens bien. Le 13, c'était le lundi. Le 14, c'était le mardi. Le 13, on part à La Rochelle en ambulance pour passer une scintigraphie osseuse. Je ne savais absolument pas ce que c'était, à quoi ça ressemblait. Mais j'étais dans la salle avec Manon. Et là, je vois apparaître sur les écrans où s'affichait son squelette. Sur son squelette, plein de petites taches blanches. Et là, je me dis, ça pue. Et on repart sur Sainte, et en fait, le 14 férié, on voit personne. Si, parce que les infirmières passaient, le médecin était passé, Manon était sous antalgique à forte dose, elle était sous Nubin, qui est, si je ne me trompe pas, un dérivé morphinique. Et le 15, ils ont dû refaire une IRM. Et puis, le 16, ils nous ont annoncé un premier diagnostic qui pensait à un lymphome. Ils nous ont dit, bon, de toute manière, nous, à Sainte, on ne gère pas et on vous transfère sur Bordeaux. Donc, on est arrivé le vendredi matin à Bordeaux. Ils l'ont descendu tout de suite au bloc. Ils ont posé le cathé. Alors, elle n'a pas eu de chambre implantable, en fait. Elle avait juste un cathéter. Ils ont fait les myélogrammes. Et le lundi, on a eu le diagnostic posé, final. Donc, neuroblastome métastatique, stade 4, ennemique amplifié, ce fameux oncogène qui, quand il est amplifié, donne encore un pronostic encore plus pourri que la normale. Et donc, quand l'équipe de Bordeaux nous annonce le diagnostic, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tsunami. Tu as l'impression de passer sous un rouleau compresseur. Alors, c'est vrai que j'avais les 15 jours précédents où j'étais déjà passée sous le rouleau compresseur. Et tu te dis, il n'y a pas le choix, de toute façon, il va falloir y aller.
Parce que du coup, il y a combien de temps entre le premier symptôme et le diagnostic ?
Bah, je t'ai dit fin mai, début juin, mais je pense que c'était mi-mai les premiers symptômes. Ouais. Donc, mi-juin, mi-juillet, il y a 2 mois.
C'est rapide ?
C'est relativement rapide.
Ouais,
c'est relativement rapide parce qu'on a secoué tous les cocotiers, quoi.
Parce que, à l'époque, je ne connaissais pas la médecine, mais même maintenant, faire des diagnostics, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Et on a l'errance thérapeutique. Ça s'appelle l'errance thérapeutique, c'est le moment où on a les symptômes et le moment où on a
le diagnostic
final. Des fois, certains patients ont plusieurs années d'errance thérapeutique.
Alors, je vais dire quelque chose qui pour moi est très important, ça dépend aussi comment le patient ou les aidants, alors là en l'occurrence les parents, la maman, se comportent face à la médecine. Et c'est vrai que... Moi, je leur ai mis le feu, quoi. Je voulais avoir le diagnostic. On a secoué ciel et terre pour avoir les rendez-vous. Et du coup, voilà, c'est vrai que quand on est confronté à la maladie, il y a 2 options. Soit on est actif, et là, on fait tout pour savoir. Soit on est passif, on se laisse porter par les médecins, par son entourage. Et parce qu'on est confronté à nos peurs et qu'on n'est pas tous égaux face à la gestion de nos peurs. Moi, j'étais pétrifiée de peur. Je pensais qu'à une chose, c'est que ma fille allait mourir et qu'il fallait que je fasse tout pour qu'elle ne meure pas.
Parce que ça, on te l'avait dit?
Oui.
À ce moment-là?
Oui. Parce que je suis allée très très loin, j'ai poussé les médecins vraiment dans leur retranchement, okay, pour qu'ils me disent vraiment la vérité. Et Manon était tellement métastasée qu'il pensait qu'elle n'irait pas au bout du traitement d'induction. Donc je savais que le pire pouvait arriver, et allait très certainement arriver. Et contre toute attente des médecins, parce que je pense que quand ils ont vu arriver Manon, même si elle était super vivante et enfin avec sa joie de vivre, etc., ils s'attendaient vraiment pas à ce qu'elle réagisse aussi bien au traitement. Je vais raconter une autre anecdote qui est vraiment chouette. C'est que quand on est arrivé à Bordeaux, donc il y a eu la pose du caté, on a passé le week-end, le lundi le diagnostic final, et puis le mardi matin, on attaque la première chimio. Et j'étais avec maman, et moi j'étais une pile électrique, et avant que les infirmières viennent tout poser, je dis à maman, je descends vite fait, je vais fumer une clope. Et quand je remonte 10 minutes plus tard, les infirmières avaient installé tout, donc Manon avait la poche à perf, la chimio qui coulait déjà entre ses veines, et posé sur la table de nuit un pouce seringue avec une énorme seringue. Et je rentre dans la chambre, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Parce qu'on m'avait parlé de la chimio, mais le pouce seringue, j'avais dû l'occulter. Et là, Manon me regarde, puis elle me fait, mais maman, t'es vraiment trop nulle, hein, t'y comprends rien. C'est du Zofrène, c'est pour pas que je vomisse. Il faut savoir qu'à cet instant précis, elle n'avait pas encore 4 ans. Elle a eu ses 4 ans le 9 août.
Ça veut dire que toi, pendant que t'étais en bas, l'infirmière qui l'a posée lui a expliqué?
Ça veut dire que Manon lui a posé toutes les questions pour savoir ce que c'était. Les chats font pas des chiens, donc elle était un peu câblée comme maman. Et pendant toute la phase du traitement d'induction, donc qui a démarré fin juillet et qui s'est terminée après la phase d'autogreffe en avril 1999, Manon était aussi active de ses traitements, de son suivi médical. Elle posait toutes les questions, elle avait besoin de savoir. Et ce qui fait que, en fait, nous, c'était notre solution pour que la vie continue malgré la maladie, malgré les traitements. Comme on était dans l'action, on ne se posait pas de questions. On savait tout. On connaissait les effets secondaires des traitements. Y a une autre anecdote très marrante, mais quand je la raconte, ça peut choquer beaucoup de personnes. Quand Yves Perel est venu expliquer à Manon les effets secondaires de la chimio, donc la chimio avait été en route, hein, c'était le premier ou le deuxième jour de la chimio, et à un moment, il regarde Manon et il lui dit « Bon, donc tu sais, les produits qu'on te passe quand même... ça va faire tomber tes cheveux. » Manon, elle le regarde et puis elle lui fait « Oui, et alors ?» Et Yves Perel lui dit « Je vais te poser une question, Manon. Tu penses que papa et maman, ils t'aimeront moins sans tes cheveux ?» Et alors là, si tu veux, ça m'a pris là. En moi-même, j'ai pensé « Quel con !» Et Manon le regarde et elle lui fait « Mais t'es nulle !» Pas parce que j'aurai plus de cheveux que papa et maman m'aimeront plus. Ça change rien, qu'on ait des cheveux ou qu'on n'en ait pas.
C'est génial comme réponse.
Et on continue la discussion, et puis quand il est sorti de la chambre, je le suis, je le regarde, je lui fais, mais ça va pas te poser des questions pareilles. Et il me regarde, il me dit, je savais que ça allait vous être violent pour vous, mais je l'ai posé parce que je savais, je connaissais la réponse de Manon. C'est une gamine qui est pleine de vie, qui a du tac au tac, et c'était aussi pour que vous dédramatisiez, vous, sa perte des cheveux. Mmh. Et en fait, la perte des cheveux pour Manon n'a jamais été un problème.
Oui, parce que nous, en tant qu'adultes, on se fait tout un monde, et parfois même des enfants un peu plus âgés, font tout un monde de perdre les cheveux. Et en fait,
Non, Manon, elle l'a regardé, elle lui dit, de toute façon, je m'en fous, ils repousseront encore plus beau. Donc voilà, c'est ça. Donc au-delà de cette, je dirais pas cette guerre, mais de cette tempête, de ce tsunami, il y a plein de belles choses qui sont liées à tout ça. C'est ce qui fait aussi celle que je suis aujourd'hui, parce que j'ai appris énormément grâce à ma fille. Voilà, on a eu des moments hyper difficiles. Enfin, décembre 99, c'était l'exérèse de la tumeur. Donc l'exérèse, c'est on opère l'enfant et on va enlever la grosse boule dans le ventre et puis on essaye de gratter autour pour enlever le maximum. On a passé Noël en réa, hein. Voilà. Donc c'est pas fun, mais on y a mis du fun quand même. L'autogreffe devait être normalement fin janvier, début février. Alors moi là, j'étais enceinte vraiment jusqu'au cou. Il se trouve que suite à l'intervention chirurgicale, Manon a, ça a, elle a mis beaucoup plus de temps que prévu pour éliminer toute la lymphe. Donc, ils ont préféré décaler la phase d'autogreffe. Et puis, ça a permis à Léo d'arriver et à Manon surtout de voir son petit frère à la maternité, de m'emmener à la maternité, de revenir le lendemain pour découvrir son petit frère et du coup, ça a été des moments de bonheur, puissance 150 000, parce qu'on a pu vivre ça, alors que si elle était rentrée plus tôt pour la phase d'autogreffe, elle aurait connu Léo derrière la vitre du secteur stérile. Donc ça, on l'a positivé, et puis elle est repartie. Donc pour l'autogreffe, moi, j'étais pas encore sortie de la maternité. Et c'est maman qui l'a emmenée, donc elle est rentrée le 8 mars 99 et elle a été autogreffée trois jours plus tard parce qu'il y avait la grosse chimio d'avant autogreffe. Et puis normalement elle partait pour 8 semaines de stérile, mais en fait au bout de 5 semaines tout était ok, elle est sortie. Et on a fait 15 jours en secteur conventionnel, enfin en oncopédiatrie. Et puis, on est reparti à la maison, on est rentré à la maison, donc le 16 avril 99. Libre de tout. Et dans ce cas-là, la grosse trouille qu'on a, c'est de se dire, mais ça fait 9 mois qu'on vit en vase clos. Même si on rentrait à la maison entre les cures, mais on était quand même tenus par les deux mains. Et le jour où on sort de l'hôpital, je dis à Yves Perel, je dis mais là, je suis tétanisée, en fait. Je vais gérer comment à la maison ? Il me dit, écoutez, on va être clair. Le pire qui puisse vous arriver aujourd'hui, c'est d'avoir un accident sur la route en rentrant chez vous. Sorti de ça, la vie reprend et vous allez vivre comme tout le monde. Et en fait, on a repris la vie comme tout le monde. En juin 99, elle a été déclarée en rémission complète. Donc là, l'autogreffe avait vraiment fonctionné. Il n'y avait plus aucun signe de la maladie. Et là, on se dit, waouh, chouette, on va y croire. Sauf qu'au fond de ta tête, t'as toujours un petit vélo qui pédale et qui te dit que rémission ne veut pas dire guérison.
Oui, parce que la rémission, c'est la période entre le moment où il n'y a plus de soins, on estime que la maladie est terminée, et on déclare la guérison. Alors, j'ai fait des recherches avant de ce podcast, c'est entre 5 et 10 ans, ça dépend des cancers. Mais donc, en fait, on parle de guérison 5 à 10 ans après la phase de rémission.
Et tu te plais quand même à y croire, hein, parce que voilà, elle a traversé toutes les tempêtes et que au moment du diagnostic, c'était vraiment pas vraiment pas gagné, quoi. Et tu te dis, bah chouette, la vie reprend, alors on repart à 100 à l'heure, enfin à 200, voire 300.
Pas de limite.
Non, pas de limite. C'est vrai qu'avec Manon, il y avait zéro limite d'ailleurs, parce qu'elle faisait tout à fond, et même pendant la maladie, mes parents, qui sont des parents très aimants et des grands-parents très aimants, très présents, j'ai traversé... toute la maladie de Manon, je l'ai traversée avec mes parents, avec mon ex-belle-mère. Le père des enfants a été le grand absent, mais j'ai vraiment été épaulée, et accompagnée et supportée. Et tout le monde avait tellement peur pour Manon, moi la première. Mais moi, je fonctionnais pas comme les autres, que bah, papy et mamie, ils avaient tendance un peu à vouloir la mettre sous cloche. Donc il a fallu un peu batailler pour dire que c'était la vie qui prenait le dessus, et c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant les 18 mois de rémission. Et décembre 2000, on part la médecine nucléaire de Bordeaux pour passer la scintille de contrôle, parce qu'en fait on avait un contrôle tous les 3 mois de juin 99 à décembre 2000 quand on a eu l'annonce de la rechute, et tous les 3 mois tout était nickel. Et donc décembre 2000, on part à la médecine nucléaire. Manon, les rollers dans un sac, la patinette à la main. Elle arrive en médecine nucléaire avec son sac à dos, les rollers dans le dos et sur la patinette à fond la caisse. Et puis, on est en salle d'attente et on rentre dans la salle pour faire la scintille. Les premières images apparaissent. Et je revois des taches blanches.
Qui avait disparu ?
Bah, qui était revenu. Ouais. Voilà.
Disparu et revenu.
Ouais. Donc en fait, ça redémarrait en métastase osseuse. Donc, quand la médecin nucléaire vient nous voir après l'examen en salle, je la regarde et ironiquement, je lui dis « Vous allez nous confirmer que tout va bien ?» Mais vraiment avec le petit sourire ironique, tu sais. Et elle me regarde et elle me dit, bah, c'est sûr que quand on voit Manon, on ne peut pas imaginer ce qui est en train de se passer. Et non, je ne peux pas vous confirmer que tout va bien.
Donc, c'est le mot qu'elle a utilisé ?
Ouais.
Parce que c'est difficile de répondre à une...
Ouais,
une
mais, il me connaissait, ouais mais il me connaissait tellement ouais, bien. Okay, si tu veux, il y avait vraiment un lien qui s'était tissé, même si on était dans un gros centre hospitalier, enfin le CHU de Bordeaux, c'est gigantesque, l'hôpital des enfants, c'est pareil, c'est gigantesque, mais j'avais vraiment créé un lien très très fort avec toute l'équipe soignante. Et donc bah, après on est reçu par Yves Perel qui nous confirme que bah oui, effectivement, la rechute a pointé le bout de son nez, et que mais on va passer les fêtes tranquilles, hein, vous allez passer quand même Noël, parce que ça devait être... le 20 ou le 22 décembre, et il me dit on se revoit début janvier, et à l'époque le protocole c'était de reprendre une chimio par voie orale, donc on a redémarré en janvier 2001. Et là j'avoue qu'entre janvier 2001 et début juillet 2002, donc quand Manon est décédée, on est quand même passé par des épisodes très très rock'n'roll médicalement parlant. En février 2000, on devait aller passer 72 heures chez Mickey. On devait aller voir un concert de la Starac. Et puis, tout est tombé à l'eau parce que Manon a fait une hémorroïdite géante. Elle s'est retrouvée avec des cocards sous les yeux. Donc, on s'est tapé 10 jours d'antibiothérapie à haute dose en hospitalisation, parce que c'était en intraveineuse. Donc là, quand tu dois expliquer à ton enfant que, ben, en fait, tout ce qu'on a programmé, on ne peut pas le faire, là, c'est compliqué, parce que ces enfants-là ont une maturité dingue. T'as beau être avec une petite fille qui avait à l'époque donc 5 ans et demi, non 6 ans, presque 7, oui 6 ans et demi, elle te regarde et elle te dit « Ouais, bah de toute façon, quand je serai morte, je serai tranquille. » Alors...
C'est violent.
Oui, c'est violent. Et en fait, autant... Eh ben, le problème, c'est que autant face au médecin, j'étais très, très assurée et voilà. Autant face à Manon, c'était quand même beaucoup plus tordu. Et obligatoirement, tu lui dis, mais tu racontes n'importe quoi, on est là pour te soigner. Si on ne peut pas aller à la Starac maintenant, on ira le mois prochain. Et puis Mickey, c'est pas grave, ça ne va pas bouger. Enfin, tu tournes tout de manière...
On se raccroche à autre chose.
Ouais, mais alors tu ravales tout parce qu'obligatoirement, tu as les larmes, tu as la rage en toi et tu te dis, mais pourquoi elle? Pourquoi nous? Pourquoi ça? Et puis là encore, la vie reprend le dessus parce que tu sors de l'hôpital, tout va à nouveau bien, on part au ski, et on passe sa première étoile, et donc tout va très très bien. Et puis à l'été, on part en Espagne. Alors le départ en Espagne, été 2001, a été un peu compliqué aussi parce qu'elle a recommencé à avoir des douleurs au niveau des hanches. Donc, avant qu'on ne parte, elle boitait. Papy et mamie ne voulaient pas qu'on parte. Et Manon leur disant, ah mais si, on part quand même. Donc, on est parti. On a passé 13 jours absolument merveilleux. 48 heures avant le retour, ça s'est à nouveau gâté. Mais on est rentré. Et puis, c'est vrai que la période de rechute, et en plus, à l'époque, on n'avait pas de solution thérapeutique qu'on peut avoir aujourd'hui avec des enfants en rechute. C'était le tout début des essais cliniques sur les anticorps, ce qu'on appelle les anti-GD2, là. Mais Manon n'a pas pu en bénéficier parce que la rechute était trop avancée. Enfin, bon... Donc, on se raccroche à tout en se disant il va falloir que ça marche, il va falloir que ça tienne le temps que ça tiendra. Et moi, j'étais vraiment très, très consciente qu'avec cette rechute, on ne la sauverait pas. Je le savais.
D'accord. Pour toi, c'était clair.
Pour moi, c'était clair. Okay. Pour moi, c'était vraiment clair et c'est ce qui m'a permis de m'y préparer. Parce que je n'ai jamais effacé ce qu'on m'avait dit au diagnostic. Et pour ça, j'en remercie vraiment l'équipe à Bordeaux. Parce que du coup, j'ai pu gérer, j'ai pu faire avec. Je ne pouvais pas faire sans. J'étais obligée de composer avec cette donnée-là. Mais c'est ce qui fait qu'on a pu avancer et faire tout ce qu'on a fait et vivre à 300 à l'heure et avoir des moments de bonheur géniaux. Voilà. Donc, j'ai vraiment aucun regret de tout ce qu'on a fait.
Je pense que c'est la meilleure chose.
Ouais.
Parce que si on a des regrets... On peut pas...
Ouais, non, mais on peut avoir des regrets, on peut avoir de la culpabilité, on peut... Voilà, moi, c'est des sentiments que je n'ai absolument jamais éprouvés, jusqu'à la fin, parce que l'état de Manon s'est vraiment dégradé à partir de mars-avril 2002. En fait, on est parti au ski quand on est rentré. Alors, il a fallu que je convoque quand même un conseil de famille devant le pédiatre, pour qu'on puisse partir à la neige.
Parce avec que... les grands-parents pour...
Ah oui, 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 mais non, mais il y avait tout le monde, hein. Sauf le père des enfants, mais il y avait tout le monde. Il y avait mon ex-belle-mère, il y avait mamie, papy était pas monté, mais bon. Enfin, voilà. Et Manon voulait retourner à la neige, passer sa deuxième étoile. Et le pédiatre qui nous reçoit dans son bureau, donc on était quand même, on devait être 5 ou 6, regarde tout le monde, regarde Manon et lui dit « Oui, oui, mais tu vas partir à la neige, maman t'emmène à la neige, il n'y a pas de problème. » Ça glace un peu tout le monde, moi je jubile.
Parce que toute la famille s'attendait à ce que le
pédiatre... Ben, ce que le pédiatre nous dise « Non, non, vous n'y allez pas. » Et quand tout le monde ressort du bureau... Manon part avec mamie en lui disant « Tu vois, je t'avais bien dit que j'irais. Hein. » Et moi, j'interpelle le pédiatre en catimini. Puis je lui fais « Mais vous êtes conscient là que vous avez donné un feu vert pour qu'elle skie ? » Donc, il n'y a pas de problème, elle peut skier. Et il me dit « Oui, enfin, vous gérez qu'elle ne soit pas 8 heures par jour sur les planches. » J'étais obligée de la décrocher des planches, hein. On était à 9h30 ou 10h le matin sur les skis. Elle avait ses 2 heures de cours. Quand le moniteur me l'a ramenée, il me disait « Mais en fait, elle ne veut pas s'arrêter. » Je dis « Oui, oui, mais là, il va falloir faire une pause. Manon, tu déchausses, on va manger. » Et à 14h, on y retournait jusqu'à 16h, 16h30. Quoi. Donc, elle faisait 4 bonnes heures de ski pleines dans la journée. Sur les 5 jours, elle était heureuse. Bah, c'était ça le plus important. Voilà.
Bah oui.
Donc on a eu une semaine de ski géniale. Elle a passé sa deuxième étoile dans un brouillard à couper au couteau. On n'y voyait pas à 2 mètres. Elle l'a eu, donc elle était trop fière. Léo cette année-là a eu son ourson. Lui par contre, il hurlait sur les skis. Les premiers, les débuts ont été torrides. Et puis, ben, on est rentré. Et quand on est rentré, c'est là où ça s'est gâté, en fait. Elle a déclenché une tumeur sur le nerf rachidien sacré. Mmh. Elle n'urinait plus. Elle ne déféquait plus. Donc là, elle a été hospitalisée à Saintes. Ça faisait 3 jours qu'on était rentré du ski, hein. Et elle a fait des pieds et des mains. Elle a dit au pédiatre, elle a dit « De toute façon, c'est maman qui me sondera. Je ne veux pas venir à l'hôpital pour me faire sonder. Donc, tu vas apprendre à maman pour qu'elle me sonde. » Puis, elle n'en démordait pas. Hein.
Donc, tu as appris à sonder ?
Donc, j'ai appris à sonder.
Après, des patients le font tout seuls, donc...
Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, j'ai appris à sonder et ça s'est très, très bien passé. Et je l'ai fait jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà. Et on est reparti, on est rentré à la maison. On a fait plein de choses. On est venu sur Paris. J'ai cassé le moteur de ma voiture sur l'autoroute avec donc Manon à sonder 4 à 6 fois par jour. Léo, qui à l'époque avait 3 ans, pas tout à fait et demi. Mais ça aussi, ce sont des super souvenirs. On s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et j'ai dit, mais non, mais je ne peux pas m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Il faut que j'aille jusqu'à la prochaine R. Et arrivé sur l'R, le moteur fumait de partout. Manon éclate de rire et puis elle me fait, tu ne vas pas appeler papy tout de suite, hein. Genre, tu vas te faire engueuler. Donc, enfin voilà. Et il a malheureusement fallu la réhospitaliser début juin 2002 parce que ça n'était plus gérable à la maison. En fait, on avait fait de l'hospitalisation à domicile. Mais début juin, on ne gérait plus à la maison. Donc, on est reparti à l'hôpital. Et là, je savais que c'était vraiment fini. Là, je savais que c'était...
Que c'était le dernier séjour à l'hôpital ?
Ouais, oui, je savais que c'était la fin, qu'on ne la sauverait pas, que... Enfin, même si j'en étais consciente depuis toujours, si tu veux. Là, je savais, dernier séjour à l'hôpital, c'est mort. C'est le cas de le dire. Sauf que maintenant, on ne voulait pas rester à l'hôpital. Donc, pompe à morphine, et uniquement pompe à morphine. Et mon médecin traitant à l'époque à Sainte est une amie d'enfance. Et Véro m'avait dit, je serai là jusqu'au bout. Mais je pense que maintenant, il faut mettre en place les soins palliatifs. Ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et j'en parle au chef du service de la pédiatrie, qui me dit vous n'êtes pas médecin. Bah, je dis non, je ne suis pas médecin, mais enfin, ça fait 4 ans que je suis au chevet de ma fille. Et donc, je pense savoir ce qu'il lui faut. Et Véro m'avait dit il faut absolument la mettre sous tranxène, sous anxiolytique, parce que au-delà de la douleur physique, il y a la douleur morale. Et comme si tu veux, c'était une petite fille de presque 8 ans, elle avait quand même la maturité d'une jeune femme de 25 ans, on va dire. Dans ses réactions, dans son comportement, elle avait une maturité exceptionnelle, comme ont tous ces enfants-là, d'ailleurs. Et un jour, Véro vient nous voir à l'hôpital, elle passait régulièrement, et moi, j'étais au lavabo, dans la chambre, il y avait un petit lavabo, j'étais en train de me laver les mains parce que je venais de la sonder. Véro rentre, et Manon, avant même de lui dire bonjour, lui dit « C'est quand que tu m'enlèves ma sonde et que je rentre à la maison ?» Et la pompe à morphine, c'est quand qu'on l'enlève? Et là, Véro lui explique, elle lui dit « Écoute, la sonde, tu sais bien qu'on ne peut pas l'enlever, tu ne peux pas faire pipi toute seule, maman est vraiment obligée de continuer à te sonder. Et puis la pompe à morphine, de toute façon, t'as tellement mal qu'il faut la laisser, sinon tu souffriras trop. »
Et la rebelote... Comme elle avait pas mal, elle ne s'en rendait pas compte de l'intérêt de la morphine.
Oui, mais quand elle faisait des bolus, donc tu vois... Oui. Même sans... Elle savait qu'elle avait mal.
Le bolus, c'est l'injection qu'on fait.
Oui, on appuie sur le petit bouton pour prendre du rab.
C'est ça.
Et donc, moi, j'étais en train de me laver les mains au lavabo. Et là, Véro la foudroie du regard. Enfin, c'est Véro qui me l'a raconté parce que... Et elle lui dit, ouais, mais de toute façon, je serai vraiment tranquille quand je serai morte.
Encore une fois.
Encore une fois. Et là, tu te cramponnes au lavabo, tu ravales tes larmes parce que tu veux surtout pas que ton enfant te voie pleurer. Et intérieurement, tu te dis, bah oui, mais le problème, c'est qu'elle a raison. Je fais comment? Donc, bah, tu repars en disant, enfin, tu te retournes et puis tu dis, mais chérie, Véro a raison, on peut pas, hein, mais par contre, je te promets, on va tout faire pour rentrer à la maison. Et là, je sors de la chambre, je chope le chef de service et je lui dis « Bon alors, le tranxène, c'est pour quand ?»« Mais votre fille n'a pas besoin de tranxène, les douleurs sont gérées. » Je dis « Oui, les douleurs physiques. » Je dis « Les douleurs psychologiques, vous en faites quoi ?»« Mais vous n'êtes pas médecin. » Je le regarde, j'ai fait « Alors attendez, on va être clair, ma fille ne souffrira plus quand elle sera entre quatre planches. Vous allez bien l'intégrer, ça ?» Et j'ai dit, maintenant, vous allez me faire rencontrer l'équipe mobile des soins palliatifs. Et alors là, il me sort, ah oui, non, mais d'abord, vous allez rencontrer le psychologue. Eh bien, j'ai dit, mais tout de suite, là, maintenant, hein, vous allez me le chercher, je veux le voir tout de suite. Donc, en fait, j'ai dû le voir le lendemain matin, et je refais le sketch au psychologue. Je lui dis, mais écoutez, vous ne pouvez rien pour moi, vous ne pouvez rien pour nous. Ma fille, elle est en fin de vie. Donc, vous écrivez gentiment qu'il nous faut l'équipe des soins palliatifs et qu'on va rentrer à la maison. Bon, c'est ce qui s'est fait. Hein. Au bout du compte, c'est ce qui s'est fait.
Oui, mais c'est ce qui paraît...
Voilà, et c'est ce qui devait se faire.
Oui.
Et on a été merveilleusement bien accompagnés par l'équipe mobile des soins palliatifs de Sainte à l'époque. Enfin, voilà, je suis toujours amie avec une des infirmières... Michel, voilà, ils nous ont accompagnés jusqu'au bout. Quand j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête, ils nous ont aidés, ils ont accompagné Manon. Je leur suis éternellement reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait pour elles et pour nous.
Mais l'intérêt du soin palliatif, c'est ça, c'est l'accompagnement. Et c'est, je trouve intéressant de rappeler ce que c'est le soin palliatif, parce que les gens ont une mauvaise image des soins palliatifs, associent le soin palliatif avec la mort. Mmh. Or, le soin palliatif, c'est la vie. Mmh. En fait, c'est l'accompagnement.
C'est exactement ça.
Jusqu'à la mort, ça évidemment. Mais sans douleur, sans inquiétude, à domicile quand c'est possible. Mmh. Et ça, je trouve que même moi, je le ressens à l'hôpital quand les patients parlent de soins palliatifs, ils associent ça à la mort et pas à la vie. Et je trouve ça dommage.
En fait, c'est l'accompagnement vers notre dernière vie. Et il y a des soignants, enfin ces soignants-là qui sont dans ces équipes-là, sont des gens que je veux dire que je vénère, parce que ils ont non mais c'est vrai, ils ont enfin pour eux, quelle souffrance aussi. Enfin moi je sais que, alors en plus je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que je parle de
de
2002.
Toute ton histoire, c'est, enfin comme tu l'as rappelé souvent, c'est il y a longtemps, c'est-à-dire que c'est pas la médecine actuelle.
Non, tout à fait. Donc c'était et puis dans un hôpital de périphérie. On n'était pas à Bordeaux, là. On était à Saintes. Hôpital de périphérie. Enfin, il y a 20 ans, on passait pour des... Enfin, je suis passée pour une extraterrestre. Alors, j'ai laissé un souvenir impérissable. Je croise encore des soignants. Je vois des gens qui se souviennent de moi, et pas plus tard que début octobre, où j'ai une manipulatrice radio... de la radiothérapie de Sainte qui est venue me voir sur un stand, qui m'a dit « Anne, vous me reconnaissez ?» Je fais « Oh !» Ben voilà, c'était... Il y avait une histoire.
Ben, ça crée des liens.
Voilà, et Sophie, elle est arrivée en me disant « Mais on vous a jamais oublié. » Et... parce que je pense qu'on a... On a donné une autre... Une autre image et du patient, de la maman avec un enfant malade. Et moi, là où je suis quand même contente, c'est que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de contacts avec des parents d'enfants malades, même si c'est pas régulier. Et les parents sont très, très actifs dans le suivi médical de leurs enfants. Ils posent de plus en plus de questions, ils sont et du coup on forme une véritable équipe.
Du coup, toi, t'as créé donc l'association Les Bagouses à Manon. Déjà, pourquoi les bagouses? J'ai vu des interviews de toi, tu t'as répondu mille fois à cette question.
Ouais, mais j'adore parce que ça interpelle toujours et encore,
mais surtout que je trouve que l'histoire est belle.
Voilà, en fait, donc je suis déjà petite fille de bijoutier, joaillier, horloger, donc Manon arrière, petite fille. Et quand elle était hospitalisée, il fallait trouver une occupation. Alors on en a trouvé beaucoup, mais ce qui nous a le plus plu, c'était de fabriquer des bijoux en perles. Et Manon appelait ça des bagouses. Et avait donc dit à son grand-père qu'on montrait un stand devant le magasin et qu'on en vendrait plus que lui. Et ça s'est resté bien caché au fond de ma tête jusqu'à temps que j'arrive en région parisienne, donc en août 2003. Donc on a emménagé dans un premier appartement qui était plus petit que le logement que j'avais à Sainte, donc j'ai pas tout déballé. Et quand on a redéménagé, il y avait le carton d'art plastique de Manon avec les sauts de perles, les rocailles, etc. Et à l'époque, j'étais... Parce qu'en fait, quand je suis arrivée sur Paris, je ne voulais pas que le décès de Manon soit vain et je voulais absolument faire quelque chose. Mais le quelque chose, c'était financer la recherche sur les cancers pédiatriques. Mais je n'avais pas encore la clé de comment et où. Donc j'ai commencé à aller sur Internet et j'ai commencé à regarder ce qui se faisait à l'époque. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait la Fondation Lou Salomé, qui est à Brest, du nom de Lou Salomé, qui était décédée en juillet 99 du même type de cancer que Manon. Et sa maman, Babette, avait créé cette fondation pour, d'une part, intervenir, enfin faire des animations à l'hôpital Morvan de Brest, où Lou Salomé avait été suivie. Et elle avait créé un forum de discussion pour les parents des enfantés. Et ben oui, c'est vrai, on perd son mari, on est veuve, on perd sa femme, on est veuf, mais on perd son enfant, il n'y a pas de mots.
Mais justement, parce que sur ton site internet, j'ai vu le mot désenfanté. Mmh. Et moi, j'entends beaucoup « mamange ».
Alors, « mamange » aussi, bah oui, mais « mamange », »,« papange
»,«
parange
ouais. ».
Alors, je trouve ça très joli, mais pour moi, ça... Enfin, comment dire ? Je sais que ces « mamange », ces « papange », ces « parange » ont le même ressenti que moi, c'est-à-dire qu'on leur a arracher un morceau d'eux. Et pour moi, le terme désenfanté qu'on a imaginé il n'y a pas loin de 20 ans représente pour moi vraiment cet arrachement.
C'est le mot qui te convient mieux.
Voilà, c'est celui qui me convient le mieux.
Mais oui, ouais. Je pense que ceux qui se font appeler parange ont la même douleur.
Tout à fait. Non, mais ça, j'en suis convaincue.
Comment ils se ressentent
Et pour moi, Manon n'est pas un ange, elle est une étoile. Donc ça va avec le, tu vois, ça va avec okay. le reste. Mais ça, c'est vraiment très très personnel. Mais notre douleur, elle est la même pour tous parents, quoi. Voilà. Et à tout âge.
Mais, bien sûr.
Hein. Et donc ce fameux forum. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de génial parce qu'en fait, on était des parents dont l'enfant était décédé, à pouvoir dialoguer, exprimer nos ressentis, notre vécu de la maladie aux côtés de notre enfant, nos galères médicales, nos errances, etc.
Sans jugement.
Sans jugement.
Parce que je pense que quand non. on parle de ce sujet-là, la vision de quelqu'un qui ne l'a pas vécu, elle peut être assez violente.
Ah oui, ben là, en l'occurrence, on était un peu en vase clos.
Ben oui,
en fait,
je pense que c'est tout l'intérêt.
Voilà.
Par exemple, voir des gens rigoler après ce qui s'est passé,
ouais.
avec que des personnes qui l'ont vécu, qui peuvent se dire, bah oui, on rigole.
Ouais. Et alors, et c'est sur ce forum que j'ai découvert deux merveilleuses amies, Marianne et Claire. Donc, Marianne a perdu... a été désenfantée de sa marraine en juillet 2003. Et Claire Sagaël est décédée en novembre 2002. Et en fait, à l'écrit, ça a tout de suite matché. Il se trouve qu'on était toutes les trois en région parisienne et qu'un beau jour, il a fallu qu'on se rencontre. Parce que le virtuel a ses limites.
Ben oui.
Et que ça a été une rencontre... explosive dans tous les sens du terme, parce qu'en fait, toutes les trois, on avait un peu le même mode de fonctionnement et qu'on a mis beaucoup de rire dans nos vies cabossées. Et c'est toutes les trois qu'on a décidé, enfin que je leur ai dit, mais attendez les filles, il faut qu'on monte une asso. Alors à la base, c'était pas il faut qu'on monte une asso, c'était Babette qui nous avait informé d'un programme de recherche sur le neuroblastome à l'Institut Curie. Donc ça, c'était en mai 2004. Ça correspondait au moment où je venais d'emménager dans l'appartement ici, où j'avais redéballé le fameux carton d'art plastique, où j'avais redécouvert les perles et où j'ai tilté en disant mais voilà, la solution elle est là. On va fabriquer des bagouses pour financer la recherche.
Ouais, en fait, c'est toutes ces choses qui sont arrivées au même moment.
Ouais.
Ça s'est un peu croisé en disant, bah oui, c'est une évidence, on va vendre ça.
Exactement.
Ouais.
Et donc, on a commencé à fabriquer des bagues. Alors, l'asso n'était pas encore créé. Hein. Et fin 2004, oui, fin 2004, j'avais déjà plus de 2000 euros sur mon compte surlivré. Et là, mon conseiller bancaire, qui était en fait un ami, il me dit « Non mais Anne, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu montes une asso. »
Il faut avoir un compte dédié.
Ouais, voilà. Parce que tu vas être imposé sur... Enfin, tu vas payer des impôts sur de l'argent qui n'est pas pour toi. Donc, voilà. Et donc, ainsi sont nés les Bagouz à Manon le 19 janvier 2005.
Avec, du coup, ces deux amis...
Alors, Claire et Marianne et moi. Et Christine... Christine étant la maman d'une Claire qui était la meilleure amie d'hôpital de Manon. Claire, elle avait un néphroblastome. Le néphroblastome, c'est le cancer du rein chez l'enfant, mais qui est vraiment spécifique à l'enfant, qui se guérit à 99% ou à 90%. Maintenant, je pense qu'on est plus proche des 99%. Mais Claire n'était pas dans la bonne tranche. Elle est décédée après Manon. Donc, à l'époque où j'ai créé l'asso, Claire était toujours là. Et puis, voilà, les quatre mousquetaires. Donc, on a continué à fabriquer des bijoux, à manger de la perle matin, midi, soir, nuit comprise. À vendre dans nos cercles d'amis, au bureau, à faire, on avait démarré à faire quand même la fête de la ville à Vélizy. Et le 10 juin 2005, on a remis notre premier chèque à l'Institut Curie. Donc nous, on avait vendu pour 7000 euros de bagouze. Et Babette, de la donation Lou Salomé, a complété à hauteur de 3 000. Donc, on a remis un chèque de 10 000 euros.
Ce qui est une belle somme pour une asso qui se
crée. Bah, oui, et puis il y a 15 ans,
10 000...
Oui, voilà.
Parce qu'on parle
dont les premières étaient quand même montées sur du fil de pêche. Et c'était des perles en bois qu'on vendait quand même à l'époque 15 euros.
15 euros la bague.
Ouais.
Bah ouais, mais bon.
Voilà.
Je pense qu'on n'achète pas qu'une bague.
Non, c'est... bah non, il y a tout qui va avec. Il y a tout qui va avec. Et ça nous a permis de rencontrer des gens géniaux. Donc en fait, les Bagouz, on était quatre. Et puis ben, maintenant, le noyau dur, on va dire que c'est une vingtaine de personnes, mais sont des centaines dans la France parce qu'on a plein de gens qui nous rejoignent, qui nous contactent pour monter des événements, c'est une aventure merveilleuse, c'est une aventure humaine géniale. Les Bagouz à Manon, c'est à l'image de Manon. Au tout début, je disais c'est un moyen de continuer à faire vivre Manon, sauf que non. Faut être clair, 15 ans plus tard, Manon, elle est morte, elle ne vit pas grâce aux Bagouz à Manon. C'est notre étoile au-dessus de nos têtes pour faire que la magie opère toujours. Mais notre combat, c'est celui des enfants qui sont dans la guerre aujourd'hui, quoi. C'est faire qu'un... Enfin, le rêve ultime, mon rêve ultime, c'est qu'un jour, plus un seul gamin meurt du cancer, quoi. Donc c'est se battre pour aider nos chercheurs, qui sont des gens absolument fabuleux. Olivier Delatte, qui est le directeur de la recherche, du centre de recherche Cyredo à Curie, depuis 15 ans, c'est un ami, évidemment. C'est pas un simple chercheur, c'est un ami. Jean Michon, qui est l'ancien chef de service de l'oncopédiatrie de Curie, c'est pareil, c'est devenu un ami et on les a quand même emmenés sur des vélos. On a emmené nos chercheurs pédaler pour la recherche. Ça, c'était en 2013. On a eu des aventures absolument merveilleuses et il y en a encore plein à venir.
Et je me posais une question, l'association Les Bagouz à Manon, Vous avez récolté combien depuis votre création en 15 ans ?
Donc en fait, on était alors en 15 ans, c'est vrai qu'on est assez fiers de nous parce qu'on est resté une petite association et on a quand même collecté plus de 500 000 euros, reversé plus de 500 000 euros.
500 000 euros en 15 ans ?
Ouais.
Waouh.
Tout ça avec des bagouses, hein. Bon, maintenant, on s'est quand même diversifié en organisant des événements. Il y a plus seul que les bijoux, il y a aussi des articles de déco, il y a de la couture. Enfin, on fait plein de choses. Donc, et puis surtout l'événementiel, en fait, est beaucoup plus important que ce qu'on faisait au départ, les ventes dans les comités d'entreprise, au bureau. Alors surtout les événements de Vélizy où on est toujours très très présent, et c'est vrai qu'on a eu une chance inouïe, c'est d'avoir été soutenu à 300% aussi par la ville, parce que en tant qu'association, on n'a pas de location de salle, on a une salle dédiée à l'association où on peut stocker notre matériel, faire des réunions, qui est mise à disposition gracieusement. Donc ça, c'est important, parce que moi je me suis toujours battu pour qu'on n'ait pas de frais, en fait. C'est pour ça que je suis arrivée très tardivement sur les plateformes de crowdfunding. Au départ, on travaillait avec une plateforme qui prenait 8% de frais, et moi, ça me faisait mal aux tripes qu'il y ait 8% de frais qui partent comme ça.
Oui, parce que du coup, c'est de l'argent qui ne revient pas à l'association.
Voilà,
à la
exactement. Et en fait, nous, vraiment, le but ultime de l'asso, c'est tout pour la recherche. On a quasiment zéro frais de fonctionnement parce qu'on se débrouille toujours ou pour se faire sponsoriser nos actions via des partenariats avec des entreprises, etc. Là, en 2020, on a trois fous furieux qui partent faire le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est 250 km dans le désert, en autonomie totale. Olivier, Cédric et Nicolas qui partent le 9 avril sur cette épreuve mythique pour tous les runners, trailers du monde. Et donc ça nécessite un budget, parce qu'on ne part pas comme ça. Et en fait, on a pour partenaire le cabinet Favreau, qui est un gros cabinet immobilier de l'Est parisien, et qui a décidé de reverser sur chaque mandat de vente 50 euros à l'association. Sur ces 50 euros, je vais partir sur ces 50 euros, il y a 20% qui vient financer le budget et 80% qui vient financer la recherche.
Le budget de l'association ?
Non, le budget du Marathon des Sables, pour que les trois coureurs puissent y participer. C'est un peu moins de 20 000 euros pour les trois coureurs, incluant le voyage, l'inscription, le matériel, etc. Et donc le cabinet Favreau, on a signé une convention de partenariat où il y a 20% des sommes reversées qui participent au financement du budget du Marathon des Sables et 80% qui iront à la recherche. Et là, avec le Marathon des Sables, on va participer au financement d'un programme de recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral à Gustave Roussy. Et le GITC, c'est aujourd'hui un cancer 100% mortel pour les enfants. Excessivement rare, mais ça fait des dégâts monumentaux. Et surtout, les enfants, tous les enfants qui en sont atteints meurent.
D'accord.
Donc là, il y a eu énormément d'avancées à Gustave Roussy. Et le docteur Jacques Grille, qui est le pont sur ce sujet-là en France, a un nouveau programme de recherche auquel on va participer. Voilà. On espère collecter 100 000 euros. Pour le moment, on n'est qu'à 22 000. Donc voilà, il faut absolument que les gens nous suivent et qu'ils donnent.
Et bien justement, c'est peut-être ma question qui va un peu conclure ce podcast. comment un auditeur peut donner. Alors, il y a le site de l'association.
Donc, il y a le site de l'asso, lesbagouzamanontoutattaché.org, où là, vous avez un lien direct pour nous soutenir qui vous renvoie sur une page Hello Asso, qui est notre partenaire de collecte. Mais qui, vous tombez sur la page de don principal. Et en fait, si vous allez sur Hello Asso et que vous tapez les Bagouzamanons, vous aurez vraiment toutes les actions en cours, et notamment le Marathon des Sables. Et là, du coup, vous pouvez choisir de donner à un projet qui vous parle plus qu'un autre.
Voilà. Je mettrai tous les liens en description du podcast pour que les gens puissent retrouver ça. Voilà.
Et puis, vous pouvez adhérer. Hein, l'adhésion à l'association, c'est 10 euros. Donc, à l'année, ce n'est pas le bout du monde. Donner, c'est défiscalisable. C'est-à-dire que vous faites un don de 100 euros ou 10 euros, vous défiscalisez à 66%. C'est-à-dire que dans les faits, ça vous coûte ou 3,60 euros ou 36 euros. Mais voilà. Et vous êtes acteur de la recherche. Parce que très clairement, 100% des dons collectés vont à la recherche.
Et puis la recherche en a besoin.
Tout à fait.
Parce que c'est des maladies qui ne sont pas recherchées par les laboratoires. Parce que... Ça, je t'entendais dans une interview raconter ça. Le cancer de l'enfant, il y en a trop peu, même
alors,
s'il y en a trop.
Voilà, c'est 2500 cas par an en France, 500 enfants meurent, mais la typologie des cancers de l'enfant n'a rien à voir avec les cancers de l'adulte. Donc ce sont des maladies très spécifiques, mais aujourd'hui, la recherche a vraiment avancé, puisque... on guérit quand même plus de 70%, on est même à 80% d'enfants guéris dans certaines formes de cancer. Maintenant, il y a le GITC, les neuroblastomes de haut grade qui sont, et d'autres cancers de l'enfant qui sont encore très difficiles à soigner. Mais la recherche avance vraiment. Moi, Manon, quand elle a été diagnostiquée, il y avait à peine 2-3% d'enfants encore vivants 5 ans post-greffe. Aujourd'hui, on est à 30%. Donc, en 20 ans, la recherche a vraiment avancé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à soutenir nos chercheurs. Et Olivier Delatte nous le dit à chaque fois qu'on lui remet un chèque. Il dit, mais sans vous, en fait, ça n'avancerait vraiment pas parce que vous donnez une impulsion qui nous permet de démarrer un programme et de dire à nos autorités de tutelle, ben voilà, grâce aux associations, on a pu démarrer ce programme, il faut que vous nous suiviez pour continuer le financement. Et ça, Olivier nous le redit régulièrement, et tous les chercheurs pour lesquels on a subventionné des programmes nous ont toujours dit vraiment, le soutien des associations, il est primordial.
Ben super.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci,
je t'ai demandé tout à l'heure, alors je ne t'ai pas prévenu en avance, mais je t'ai prévenu avant qu'on lance l'enregistrement, une partie libre. Est-ce qu'il y a un sujet, peut-être qu'on n'a pas abordé, ou un autre sujet que tu veux aborder dans ce podcast ?
Alors moi, le sujet, il est lié à ce dont on vient de discuter. Je voudrais enfin, que les pouvoirs publics prennent en compte l'urgence de nos soignants, de nos hôpitaux. Vous êtes tous des gens absolument fabuleux, vous les soignants, sans qui on pourrait pas guérir, on pourrait pas se soigner. Vous travaillez dans des conditions qui sont absolument innommables, et ça, c'est juste insupportable. Donc mon message, mon appel, il s'adresse à nos dirigeants de tous bords. Hein, c'est vraiment pas de la politique. Hein, c'est juste qu'on prenne en compte vos souffrances au quotidien, parce que tout ce que vous faites pour nous. Si vous n'étiez pas là pour le faire, mais on serait déjà 6 pieds sous terre, et que vous avez énormément besoin de moyens, de soutien et de conditions de travail dignes de ce nom. Voilà. Et je vous aime tous très fort.
Et on t'aime aussi beaucoup. Ok. Et moi, j'avais une recommandation de podcast à faire. C'est le podcast Impatiente. Le podcast Impatiente qui a été créé par Maëlle Sigono et Mounia Elkotni par Nouvelles Écoutes. Alors, ce podcast, il a la particularité. Maëlle Sigono était atteinte d'un cancer du sein métastasé. Elle est décédée le 17 août 2019. Elle avait lancé son podcast quelques mois avant. Pardon, ça me touche.
Moi aussi, j'ai la chair de poule, ouais. Parce qu'effectivement, je l'ai suivi, Maëlle.
D'accord. Tu l'as connue ?
Je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas rencontrée, mais je l'ai suivi.
Ok. Ouais. Et tu as écouté son podcast ?
Ouais.
Il est magnifique. Vraiment, je vous conseille d'écouter ce podcast, parce que moi, en tant que soignant, il m'a un peu retourné, et notamment s'il y a un épisode... Écoutez tous les épisodes, mais il y a l'épisode 2 qui s'appelle « Moi, je serai parti », qui raconte une agression qu'elle a subie, qu'elle nomme la violence oncologique. Je vais pas la raconter parce que c'est ses mots, mais vraiment, écoutez ce qu'elle a à dire. Et je suis très heureux parce qu'ils ont sorti un épisode il n'y a pas longtemps, le podcast continue, donc Mounia Elkotni avec la famille et les amis de Maëlle, continue le podcast. Donc voilà, c'était ma recommandation et j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. Voilà.
Merci beaucoup Théo pour ton Anne. Écoute.
Merci d'avoir accepté cette première...
Je suis ravie.
Et ben moi aussi, franchement, l'épisode va être long, mais merci beaucoup à toi.
Ah oui, on ne peut pas me retenir quand je parle.
Mais tant mieux.
J'ai pas tout dit.
Et ben, on se reverra pour un autre épisode.
Voilà, c'est ça.
Salut Anne.
Salut Théo, merci.
Voilà, c'était le premier épisode de À ta santé. Je remercie Anne d'avoir accepté mon invitation. Merci à elle pour sa confiance et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez tous les liens et les références citées en description. Vous pouvez commenter et partager cet épisode. Je compte aussi sur vous pour laisser plein d'étoiles sur iTunes. Ça permet un meilleur référencement du podcast. Merci à Maxime Martin pour l'identité visuelle du podcast et pour la création de ce magnifique logo qui me représente si bien. Je vous mets son contact également dans la description. Enfin, si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode. Salut !
C'est génial, j'adore.
Merci beaucoup.
Ah, c'est top.
Ah, trop bien.
Ah, c'est un gros bisou. Top.
Ah, ça me fait plaisir que t'aies...
Ah, mais ouais, mais moi j'adore. Et alors, la radio, j'adore ça, en fait.
Mais moi, je découvre la radio. Hein,
Alors, je sais pas, t'as écouté l'émission que j'avais fait en mars l'année dernière avec Ali Rebéi sur France Inter ?
Non.
Il faut que tu l'écoutes.
Ah, ben oui, carrément.
J'étais allée avec... alors, c'était dans le cadre des...
Attends, je me le note.
Des jonquilles de Curie. Je te le retrouve.
Si je tape les bagues aux amants France Inter. Tu m'as dit qu'il y a un animateur ?
Ali Rebéi. Son émission, c'est Grand Bien Vous Fasse.
Ok. Eh ben, je me le note parce que...
12 mars
ah oui, d'accord, carrément.
2018 ou 19, je sais.
T'as une mémoire des dates.
18, je crois. Sors-toi de là, toi. Oui, moi, alors oui, j'ai une mémoire des dates à faire mal.
Ouais.
Je peux te refaire toute l'histoire.
Ah, c'est trop.